Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ok, on va continuer sur le leadership. Et je vous rappelle que Dieu fonctionne avec des principes, mais aussi des valeurs. Donc ça, c'est important. Les principes et les valeurs. Plus ça va, plus nous allons aller dans le leadership et nous allons parler des valeurs. Parce que nous parlons de loi du leadership, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a les lois du leadership, mais les lois du leadership sont soutenues par des valeurs. Donc je vous rappelle que les lois, ce sont les principes divins. Ce sont les choses que Dieu nous montre dans sa parole, qu'on doit appliquer, telle une loi que tu appliques. Et quand tu appliques une loi, évidemment, tu en as un bénéfice. Maintenant, les valeurs, ce sont les traits de caractère divin qu'il va falloir que tu acquières dans ta vie. Donc les valeurs, ce sont les traits de caractère divin qu'il va falloir que tu acquières dans ta vie. Et ça, c'est important. C'est très important parce que si tu ne comprends pas cela, tu vas soit écouter des choses sur des lois spirituelles, et c'est bien. Par exemple, vous savez, dans les finances, il y a la loi de semer et de récolter. Tout ça, c'est très bien. Mais si tu n'as pas une valeur d'intégrité par rapport aux finances, tu vas... C'est vrai, prospérer, parce que tu appliques une loi spirituelle de semer et de récolter. Et si tu le fais avec foi, immanquablement, ça va, tes finances vont se multiplier, Dieu va bénir tes finances. Le problème, c'est que tu ne vas pas savoir contenir ta bénédiction. Et c'est là où ça va devenir une malédiction. Voilà. Donc c'est très important dans le leadership de comprendre, parce que plus on avance là, plus on va commencer à parler de valeurs de caractère. On en a déjà parlé en partie, hein, par exemple dans la loi de la solide fondation, vous avez vu que celui qui commence, le leader qui se met dans le péché et qui fait des erreurs régulièrement, au bout d'un moment va tout perdre. Ça c'est clair, c'est la loi de la solide fondation. Mais à côté de ça, il faut bien comprendre qu'il y a des lois et des valeurs qui vont ensemble. Nous avons vu que Dieu était un Dieu hiérarchisé. Dieu, dans le monde invisible et dans le monde visible, a prévu des autorités, a prévu un leadership. Il y a un leadership divin, mais malheureusement, le leadership divin a été perverti par le péché. Et très souvent, nous, les chrétiens, nous avons des modèles qui sont mauvais. Nous devons tous nous identifier quelque part. Ce que tu vois, ceux qui t'ont entouré, ceux qui t'ont formé, obligatoirement, tu t'identifies à eux et tu reproduis quelque chose de bon, d'excellent ou des fois de mauvais. Il y a parfois des gens, vous savez, qui font des choses qui ne sont pas bonnes par ignorance. Il y en a d'autres qui le font exprès parce qu'ils ont un cœur vraiment pourri et mauvais. Mais j'ai remarqué que parfois, vous voyez des gens agir d'une certaine façon et ils sont complètement tordus à l'intérieur d'eux. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il réagit tout le temps comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a cette maladie, entre guillemets, à l'intérieur de lui, dans son âme? Et après, au début, ça peut t'énerver, au début, tu peux le sanctionner très sérieusement quand il est sous ton leadership. Puis au bout d'un moment, tu commences à comprendre qu'il y a une racine derrière tout ça, une racine de mentalité. Et là, il va falloir complètement transformer la mentalité pour acquérir la mentalité divine. Et ça, c'est vraiment un travail qui est extrêmement difficile à faire, surtout au début, et surtout qu'il faut le comprendre rapidement dans nos vies spirituelles. Là où on est vraiment dérangé, c'est quand on ne comprend pas ces choses, et pendant des années et des années et des années et des dizaines d'années, alors qu'on est sauvé, on continue à faire de la mauvaise façon. C'est ça qui est vraiment polluant pour nos églises et aussi pour les leaders en général. Alors, nous avons vu qu'il y a différentes lois du leadership. Nous avions vu la loi du couvercle, hein, ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'aller plus haut. On a vu David et Saül qui avaient des arrière-plans qui étaient très différents, qui avaient des destinées communes, mais il y en a un qui a réussi. alors qu'il avait tout pour perdre, et l'autre qui a tout perdu alors qu'il avait tout pour réussir. On a vu la loi de l'influence, on a vu que le leadership c'est de l'influence. On a vu Josué au début, il n'avait pas d'influence et tout le peuple s'est ligué contre Moïse, contre les leaders. Et ça a été une catastrophe. 40 ans plus tard, Josué disait « on va à gauche », tout le monde allait à gauche, il n'y en avait pas un qui bronchait. Entre les deux, il a été mentoré par Moïse et il a gagné en influence. Ensuite, nous avons vu Joseph. Joseph, c'est la loi du processus. On a vu que faire un leader ne demande pas 2 jours. Mais il va y avoir une croissance, et cette croissance va se faire dans la souffrance. Ça, c'est clair. L'école de Dieu, c'est la souffrance. Il faut vraiment que nous soyons brisés. Et briser, ça veut dire, ni plus ni moins, apprendre à ne plus dépendre de nous-mêmes. Savoir que nous ne pouvons pas réaliser la vision que Dieu nous a donnée par nous-mêmes, mais que tu as besoin de dépendre de Dieu. Tu as besoin de renforcer ta communion avec Dieu, alors que tout ton entourage t'a laissé tomber. La loi de la navigation, Néhémie, on a vu que c'est bien... Le leader sait d'une part où est l'objectif final, où est-ce qu'on va, mais il sait surtout comment y aller, étape après étape. Et là aussi, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de leaders qui sont là, ils vous disent « on va faire ceci, on va faire cela ». Et qu'est-ce qui se passe finalement? Eh bien, ils ne font jamais rien parce que les défis sont trop grands et ils ne savent pas amener le peuple de Dieu étape après étape selon la croissance. Par exemple, quand vous avez une très grande vision spirituelle, par exemple d'une immense église, il va y avoir des étapes de croissance spirituelle, oui, des étapes de leadership, oui, mais aussi des étapes financières. Et tout ça, il faut le comprendre. Il faut y aller étape après étape après étape. Et quand tu commences à bien naviguer, je t'assure, tu iras très loin. Ce que tu feras en 5 ans, 10 ans, les autres n'arriveront pas à le faire, alors qu'au départ, ils avaient des dons plus importants que toi, ils étaient beaucoup plus brillants que toi, tu as commencé dans des conditions beaucoup plus difficiles, mais tu as su être un bon navigateur. Ça, la navigation, c'est quelque chose qui est super important. Ensuite, nous avons vu la loi de E.F. Hutton, c'est-à-dire devenir quelqu'un qu'on écoute. On a vu que ça s'apprend, ça. Samuel, qui au début ne savait pas, n'était pas écouté, et qui après était un prophète, qui était écouté par les rois, par les chefs militaires, par tout le monde, le peuple entier. Samuel disait, repentez-vous, venez tel jour et offrez des sacrifices. Tout le peuple arrivait, il pleurait de repentance et ils se repentaient et ils obéissaient à ce que Samuel disait. Ensuite, on a vu la loi de la solide fondation, Samson qui avait tout, un appel de Dieu, une puissante onction. Mais il a tout loupé, pourquoi? Parce qu'il avait des traits de caractère de péché à répétition. Et son problème, lui, c'était les déviations sexuelles. Il y en a d'autres, c'est l'argent, il y en a d'autres, c'est la gloire, il y en a d'autres, toutes sortes de choses qui peuvent venir à l'encontre d'un leader et qui peuvent détruire sa destinée. Ça, c'est tout à fait classique. Quand un leader, tout leader fait des erreurs, tout leader peut parfois tomber même dans le péché, ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut jamais penser quand tu es leader, jamais je ne tomberai dans quoi que ce soit. Ça, c'est de l'orgueil. Méfie-toi quand tu fais ce genre de déclaration. Sois bien sûr d'abord qui tu es et comment tu travailles ton caractère. Et surtout, ne critique pas les autres. Parce que vous savez, les leaders qui n'arrêtent pas de critiquer les autres qui chutent ou qui ont des problèmes sérieux. Je ne parle pas des gens qui sont mal intentionnés. Je parle des gens qui font un bon travail mais qui d'un seul coup se retrouvent en face de problèmes personnels. Et à ce moment-là, chutent et les gens en profitent. Vous savez, il y a des leaders, tristement et malheureusement, je dois le dire, il y a des pasteurs qui sont comme ça. Quand il y en a un qui a fait un bon boulot et qui subit un problème sérieux personnel, l'autre se réjouit en disant « Ah, je vous l'avais dit les gars », plutôt que de venir et d'essayer de le restaurer. Il y a des temps de restauration pour les leaders. Malheureusement, souvent, ce sont des choses qui ne sont pas faites pour différentes raisons. Il y a différents contextes que je ne vais pas vous expliquer ici. La loi du respect, Déborah. Déborah, cette femme qui est au milieu d'hommes dans une société où tous les hommes dirigent et elle a su faire son trou. Elle a su se faire respecter et à la fin, elle a été appelée la mère d'Israël. Imaginez-vous. La loi du magnétisme, Élie. Il y a une loi d'attraction. On a vu que le magnétisme, tout le monde a une dose de magnétisme. Mais ce magnétisme n'est pas statique. C'est quelque chose que tu peux augmenter dans ton, dans ton leadership, dans ton ministère d'une manière générale. Ensuite, nous avions terminé avec la loi de la connexion. On a vu Roboam. Roboam, ce roi qui est le fils de Salomon. Je vous rappelle que Saül n'a jamais fait d'Israël une nation. Saül avait un leadership complètement statique, il n'a jamais fait bouger Israël. David va mettre Israël en mouvement, Salomon va faire accélérer extrêmement Israël, en tout cas pendant une bonne partie de sa royauté. Et Roboam, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors que Salomon, vers la fin, va faire ralentir très sérieusement Israël, Salomon, lui, il va appuyer va appuyer de toutes ses forces, le fils de Salomon, donc Roboam, va appuyer de toutes ses forces avec ses deux pieds sur le frein. Et Israël va complètement s'arrêter, il va y avoir le schisme. Et nous avons vu que Roboam était un jeune roi, et ce roi sans expérience, son père lui avait laissé un héritage qui était brûlant, parce que Salomon, vers la fin de sa vie, avait sérieusement dévié, il avait amené de l'idolâtrie, Dieu avait prophétisé qu'il y aurait un schisme, et Roboam est tombé et a fait précipiter le jugement de Dieu sur Israël. Dommage, il aurait pu le retarder. Retarder un jugement, ça s'appelle la vraie intercession. Je m'excuse de dire ça, mais souvent le mot intercession est extrêmement mal pris dans le corps de Christ. La vraie intercession, c'est de retarder un jugement sur des gens qui méritent un jugement. C'est ça la vraie intercession. Quand on enseigne sur la prière d'intercession, littéralement le mot intercéder veut dire en fait d'écarter ou d'empêcher un jugement divin, d'arrêter un jugement divin sur des gens qui méritent un jugement, c'est-à-dire des gens qui ont péché, des gens qui ont fait des choses contre Dieu, mais s'ils se repentent ou s'ils se remettent dans des conditions divines, Dieu va les pardonner et Dieu va retirer ce jugement. Et en fait, ici, Roboam, Dieu avait prophétisé qu'il y aurait un schisme, c'est-à-dire une division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ça s'est passé en 931 avant Jésus. Et en fait, Roboam, lui, on a vu, il n'a pas réussi à se connecter. C'était un petit jeune orgueilleux. Il y avait les anciens de son père auprès de qui il a cherché conseil, parce que le peuple se plaignait, le peuple se souffrait, le peuple avait de sérieux problèmes. Et ce Roboam n'a pas su se connecter au peuple. Il n'a pas su écouter le cœur du peuple. Et la seule chose qu'il a su écouter, c'est non pas les anciens de son père, qui eux avaient vu que le père, c'est-à-dire Salomon, avait sérieusement dévié, et ils espéraient peut-être qu'en Roboam, ils allaient trouver un roi qui allait redresser la barre, et malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Et le Roboam n'a pas écouté les anciens qui avaient conseillé son père. Il a écouté les petits coqs, parce que lui-même était un petit coq, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu montrer qui il était, et il a montré des épaules, en disant, mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vais prendre des scorpions. Il a mis un petit joug, mais moi je vais mettre un gros joug sur vous. Et il a envoyé les collecteurs d'impôts, etc., etc. Et le peuple a dit, c'est fini, on ne veut plus entendre parler de toi. C'est terminé. Et ils ont fait une division. Et le royaume d'Israël a été créé, et le royaume de Juda a été créé. Et depuis ce jour-là, il y avait eu deux rois au nord et au sud. Vous voyez, c'était encore un problème de leadership, entre autres. Alors maintenant, nous allons voir la 11e loi. La 11e loi, c'est la loi de l'entourage proche. La loi de l'entourage proche. La loi de l'entourage proche. Premier principe sur cette loi, notez que le potentiel d'un leader, donc numéro un, le potentiel d'un leader est déterminé par ses proches. Le potentiel d'un leader est déterminé par ses proches. Sachez que si vous êtes seul, vous vous dirigez que vous-même. Vous ne dirigez que vos chaussures. Et vraiment, vous verrez l'efficacité d'un leader avec son entourage proche. Personne ne peut réaliser une vision seul. Il a besoin d'un entourage proche et d'un entourage fort qui est proche de lui. C'est très important. Les personnes qui sont proches de vous, ça va être des personnes décisives pour votre leadership. Les personnes qui vous entourent, et ce n'est pas facile en leadership de trouver les bonnes personnes qui peuvent vous entourer, parce qu'on va voir qu'il faut qu'elles aient certaines qualités. Mais le leader doit comprendre qu'il doit travailler avec un cercle d'intimes, pas des gens qui lui baisent les pieds et qui le flattent, parce qu'il y a des leaders qui sont comme ça, qui aiment un certain entourage proche de flatteurs, parce qu'on le met sur un piédestal et on lui fait des petites courbettes. Ça n'a rien à voir avec le leadership divin. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, et tristement, certains pasteurs aiment ça, qui se sont fait des grands bonhommes, entre guillemets, et ils veulent un entourage proche qui n'arrête pas de les flatter, qui les respecte, mais dans le niveau, parce qu'ils doivent le faire. On a vu la loi du respect, je vous le rappelle. Et en fait, si vous voulez gagner, il vous faut une bonne équipe. C'est très important. Grande vision, il vous faut une très bonne équipe. Des gens autour de vous. Des gens en qui vous allez investir, qui vont développer leur potentiel. Donc il vous faut une excellente équipe autour de vous. Des gens en qui vous allez investir. Des gens qui sont vraiment forts. Des gens en qui vous avez vu un potentiel et vous les aidez à faire sortir ce potentiel. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui vont être d'une grande valeur et qui vont être autour de vous. Mais ça prend du temps, nous allons le voir. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement de la part du leader. Deuxième principe maintenant, notez qu'une super équipe fait qu'une vision se réalise. Une super équipe fait qu'une vision se réalise. Et nous allons prendre l'exemple du roi David. Parce que ce qui a fait de David un grand homme, c'était son cœur pour Dieu. Et tout le monde le sait. Quand on voit l'expression « David avait un cœur selon Dieu », c'est ce qui a fait de lui un grand homme. Mais ce qui a fait de David un grand leader, c'est son entourage proche. Vous pouvez être quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais si vous ne créez pas autour de vous un bon entourage proche, de bonnes personnes, fortes, en qui vous avez investi, qui ont un grand potentiel pour vous aider dans votre vision, bien, vous serez quelqu'un de bien, mais votre leadership sera complètement limité. Donc ce qui a fait de David un grand homme, c'est son cœur, ça c'est clair. Par contre, ce qui a fait de David un grand leader, eh bien, c'est son entourage. Vous pourrez lire 2 Samuel chapitre 8, chapitre 10. Donc 2 Samuel 8, chapitre 8, chapitre 10, chapitre 23. Donc 2 Samuel 8, 10, 23. Et 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12. David était un homme de qualité, même s'il a fait ses erreurs. Et il en a fait de sérieuses. C'était un homme qui aimait Dieu, c'est un homme qui était oint, c'est un homme qui était d'une grande bonté. Il avait beaucoup de qualités de caractère, David. Mais ce qui a fait réussir David, ce ne sont pas ses qualités personnelles, c'est son entourage. Parce qu'il a su s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qu'un leader doit comprendre. Il avait des gens qui étaient complètement dévoués à sa cause. Il avait des gens qui étaient prêts à mourir pour sa cause. Imaginez-vous. Ils étaient tellement loyaux, les gens qui entouraient David, qu'ils étaient complètement engagés jusqu'au bout. Ils étaient prêts même à mourir pour sa cause. Et quand on étudie l'histoire de l'entourage proche de David, on va s'apercevoir que David n'a pas commencé à avoir un entourage du jour au lendemain. Il a commencé par une seule personne. Qui était la personne qui était dans l'entourage de David? C'était Jonathan. Jonathan, le fils de Saül. C'était la première personne. Et Jonathan était quelqu'un de très loyal à David. Il lui a livré des secrets même de son père, imaginez-vous. Les secrets du roi. Jonathan était quelqu'un qui était extrêmement loyal à David. Puis après, il va trouver 400 hommes, ce que la Bible appelle des vauriens. Je crois que le pasteur Dallois fait quelque chose sur des vauriens ces derniers temps. Des vauriens, c'est-à-dire des gens qui bon, des bandits, des voleurs, tout ce que vous voulez. Mais il a su en faire une équipe. Il a su les transformer par son leadership. Et ces gens-là, il était avec eux dans le maquis. Pendant le temps où réellement Saül persécutait David, c'est ces gens-là qui ont protégé. Pourtant, ce n'étaient pas des gens formidables. C'est moins qu'on puisse dire, en tout cas au début. Il en a fait une partie de ces gens-là, des gens formidables. Mais au début, c'était vraiment des gens que personne n'aurait voulu avoir dans son entourage. Mais David savait repérer les gens. Et il a su prendre ses hommes. Et après, une fois qu'il a pris la royauté, il a été beaucoup plus loin. Et il a su former des grandes armées et avoir un entourage proche qui était extrêmement fort. David a réussi réellement avec son équipe de faire d'Israël une nation. Rappelez-vous, Saül n'a jamais fait d'Israël une nation. Saül était un incompétent professionnel. Saül, lui, il n'y a qu'une chose qui l'intéressait, c'était moi, moi, moi et moi-même. Il voulait les honneurs, il voulait que tout le monde le dise, tu es le roi, ceci, cela, mais il était incapable, il a été incapable de faire d'Israël une nation. Un roi qui démarre dans la royauté, c'est-à-dire quand la royauté démarre dans un pays, doit faire de son peuple une vraie nation. Et Saül en a été absolument incapable. David, lui, il va être capable de consolider, d'unifier Israël avec toute son équipe autour de lui. Il va faire un travail formidable. Vous savez, le sale travail, entre guillemets, c'est David qui l'a fait. Saül, quand il a pris la royauté, il est né... Salomon, quand il a pris la royauté après son père David, il est né, comme on dit en anglais, avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça veut dire qu'il avait quasiment tout. Il avait toutes les billes entre ses mains, pour amener Israël très haut. Parce que son père avait fait le sale travail. Son père avait vraiment bossé très durement et il avait commencé à faire d'Israël réellement une nation. Salomon, quand il a pris la suite, lui, bon, il a multiplié ses choses par rapport à la sagesse de Dieu. Il a vraiment été extrêmement doué dans pas mal de domaines, mais il faut dire une chose, le sale boulot, c'est son père qui l'avait fait. Le sale boulot, c'est son père. Il avait durement bossé. Il a vécu des moments difficiles. Il a été persécuté. Il a eu plein d'ennuis. Salomon n'a jamais été persécuté. Salomon, il marchait avec la sagesse de Dieu. Il a pris ce que son père avait déjà fait et il a bâti dessus. C'est bien. C'est très bien. Mais c'est David qui a fait le sale boulot. Et le sale boulot, il a pu le faire avec une équipe qui était forte. Et avec des gens qui étaient prêts à vivre dans la forêt, des gens qui étaient prêts à manger un repas tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours, mais des gens qui étaient là, mais qui savaient ce qu'ils voulaient, qui étaient déterminés. Mais c'était un moment difficile. Vraiment, David a passé des moments extrêmement difficiles. Et il dépendait de Dieu d'une façon incroyable. Mais c'est grâce à son entourage. Il a consolidé, il a unifié Israël. Il a fait que les ennemis d'Israël soient écartés très loin. Salomon n'a pas eu de bataille. Salomon, il n'a jamais fait de guerre quasiment. Lisez, David s'est occupé de tout ça. Il s'est occupé de repousser les frontières d'Israël au maximum. Quand vous étudiez les frontières d'Israël, jamais les frontières d'Israël n'ont été aussi élargies que quand il y avait David. Jamais. C'est là où Israël, le territoire d'Israël a été le plus grand. Il a établi une administration. David a établi une administration. Comment ? Quand il était roi, avec son entourage. Il a conquis Jérusalem et en a fait une capitale. Il a conquis Jérusalem et il en a fait une capitale. Saül, pendant tout son règne, de dizaines d'années, je crois une quarantaine d'années, il n'a jamais rien fait. Il n'avait même pas une vraie capitale où on établissait vraiment la royauté. Il a vraiment pas fait grand-chose. Il a rétabli l'adoration avec l'arche qu'il a ramenée à Jérusalem. Donc, il a consolidé et unifié Israël, il a écarté les ennemis, le territoire était le plus grand possible. Il a mis une administration, David. Il a conquis la ville de Jérusalem et en a fait une capitale. Il a rétabli l'adoration et il a fait une dynastie. David a eu un bilan extrêmement positif grâce à son entourage. Par contre, il a été très débiteur concernant sa famille. La famille de David a connu des choses les pires. Il a eu son propre fils Absalom qui s'est rebellé contre lui, imaginez-vous. Il a vraiment eu de très graves ennuis au niveau de sa famille. Ça, par contre, ce n'était pas quelqu'un qui, au niveau de la famille, a su gérer les choses. Vous savez, c'est toujours difficile quand nous venons de la première génération où nous servons Dieu. Parfois, c'est vraiment difficile. Quand nous sommes là, nous avons un héritage de nos parents qui étaient païens. D'un seul coup, toi, tu te donnes à Jésus et là, tu vas avoir affaire au défi. Tes enfants, s'ils ont été élevés et s'ils sont nés, parce que toi, tu étais déjà chrétien, ils auront beaucoup plus de facilité à construire l'environnement familial. La première génération a du mal parce qu'elle sort. Elle sort de temps difficiles. Elle sort de temps où on était dans le péché et puis on s'est donné à Christ. Donc il y a eu toutes ces années où on était dans le péché et où on a vu peut-être des familles qui étaient, où on était dans une famille qui était complètement dans le désordre. Et nous, on se donne à Christ. Et après, il va falloir qu'on construise selon Dieu. Et David a vraiment eu des difficultés au niveau familial. Franchement, de ce côté-là, si David a bien réussi d'un côté, du côté familial, ça a été extrêmement difficile. Mais au niveau leadership, c'est un homme qui a su vraiment y faire, en tout cas dans le domaine de l'État, dans le domaine de la nation d'Israël. Troisième principe, une équipe, c'est bien plus qu'un groupe de gens. On va commencer à voir les qualités de gens qui doivent être autour de nous. Une équipe, c'est bien plus qu'un groupe de gens. Vous savez, David avait réussi à former une armée de plus d'un quart de million d'hommes. 230 000 hommes, imaginez-vous. C'est énorme. Pour un petit pays comme Israël, 230 000 hommes il avait. Mais ce n'était pas son armée qui était sa force. C'était ses gens qui étaient son équipe, autour de lui, qui étaient soudés à sa vision, qui étaient loyaux au leader. Fidèle à la vision. Vous savez, la fidélité, notez que la fidélité, c'est travailler dans la vision d'un autre. La fidélité, c'est travailler dans la vision d'un autre. La loyauté, c'est s'attacher à la personne. La fidélité, c'est s'attacher à la vision. C'est différent. La loyauté, c'est envers une personne, par rapport à qui il est. et tu te donnes à la personne, au leader, par rapport à qui il est, ce qu'il représente pour toi. Avec ses qualités et avec ses défauts, c'est ça la loyauté. La loyauté, tu vas continuer à servir la personne quand elle marche vraiment avec ses qualités, mais aussi quand elle est dans ses défauts et quand des fois elle fait face à des problèmes. Les gens loyaux continuent à suivre les leaders même quand ils ont des moments difficiles qui sont dans les tempêtes. Les gens qui sont déloyaux, quand ils voient que le leader est dans des faiblesses, ils leur font un croche-pied et ils plantent un couteau dans le dos. Ça, c'est les gens déloyaux. Mais parlons de la fidélité ici. La fidélité est quelque chose de très important. C'est un trait de caractère. Vous savez, quand on dit « Seigneur, je veux être fidèle à toi, je veux t'être fidèle », ça veut dire que tu travailles dans la vision du royaume de Dieu. Tu ne travailles pas dans ta vision. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, ils ont cet esprit de serpent. La différence entre les brebis et les serpents, c'est que les brebis fonctionnent toujours en groupe et ont un berger et suivent un berger. Un serpent, vous ne verrez jamais des serpents vivre en communauté. Le serpent a un esprit d'indépendance. Et malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui sont des fois dans l'entourage de leaders qui ont ces mentalités de serpent. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils disent « Pasteur, on est avec toi ». Mais en fait, il te dit ça simplement pour bénéficier, pour tirer des choses de toi. Et il y a un jour où ils savent à l'avance qu'ils foutront le camp avec tout ce qu'ils pourront prendre. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas fidèles. Ce sont des gens qui sont mauvais dans notre entourage. Les gens fidèles travaillent dans notre vision pour nous aider à réaliser cette vision. Ça, ce sont des gens précieux dans le leadership, très précieux dans le leadership. Ils sont rares, ces gens-là. Ils sont très rares. La plupart des gens qui se mettent autour d'un leader, ils ont un agenda caché, comme on dit si bien. Ils ont un plan B. C'est-à-dire, ils disent, je suis avec toi, mais toujours ils pensent, je sais qu'un jour, je partirai de là, avec tout ce que je pourrais prendre. Quand tu as ce genre d'esprit, crois-moi, le Seigneur ne pourra pas t'utiliser. Tu n'iras pas loin, ou alors il faudra vraiment que tu te repentes par rapport à celui qui t'a formé. Faites très attention à cela, frères et sœurs. La fidélité est de travailler dans la vision d'un autre pour que le leader que tu sers puisse réussir sa vision. Toi, tu seras dans l'ombre et tu accepteras d'être dans l'ombre. C'est difficile d'être dans l'ombre parfois. Mais vous savez, Dieu ne nous récompensera pas parce que nous avons eu une image publique ou pas. Dieu nous récompensera. Il récompensera certainement autant quelqu'un qui a su être fidèle et qui a su se tenir pour un de ses serviteurs d'une façon loyale et fidèle pendant des années et des années et des années, dans les bons et dans les mauvais moments, que celui-même qui a servi en tant que leader au front. Parce que nous avons besoin de ces gens-là. Et je vous dis, ces gens-là sont des perles rares, très rares. Ils sont très précieux dans le leadership, mais ils sont très rares. Quand tu arrives à les trouver, mon frère, ma sœur, vraiment, vraiment, ce sont des gens qu'il faut que tu saches garder autour de toi. Ils sont rares, mais il y en a. Et ça ne vient pas tout de suite en leadership. C'est difficile à avoir ce genre de personnes. Alors, comment est-ce que David a fait croître son cercle proche? Comment est-ce qu'il a réussi à faire grandir son cercle de proches, de gens dévoués à sa cause, de gens loyaux, de gens fidèles? D'abord, il a commencé avant d'être en position de leadership. Avant même d'être roi, il a commencé. Il y a Jonathan, il y a eu 11 personnes après, puis il y en a eu 400, etc., etc., etc. Ça, c'est commencer avant d'être en position de leader. C'est-à-dire, tu as une vision, tu sais que le Seigneur t'appelle à ça, mais bien avant déjà, tu commences à créer des relations. Je vous rappelle que c'est très important de créer des cercles de relations. Un bon leader travaille sur les relations, sur les réseaux de relations. Le leader qui dit « je peux tout faire par moi-même, je n'ai pas besoin des autres », c'est un leader qui n'a rien compris au leadership. Il n'arrivera à rien faire de grand. Il sera complètement limité parce que finalement, il pense que les autres ne peuvent pas l'aider réellement. Il pense que les autres sont là et ça va être la compétition. Il a peur des autres. C'est un leader insécure et il est incapable de comprendre que finalement, Dieu va lui donner les bonnes personnes s'il sait les attirer autour de lui. Deuxième chose, David a attiré des gens qui ont des dons différents. Deuxième chose, il a attiré des gens qui ont des dons différents. Je vous rappelle qu'il y a ce proverbe en français qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à casser dans le leadership. Parce que souvent, nous allons chercher des gens avec lesquels on a des atomes crochus, c'est-à-dire où on se sent bien, en fait, qui pensent les mêmes choses que nous, qui ont les mêmes dons que nous. Ça, c'est bien, mais si tu n'as que ces personnes-là, tu vas limiter le potentiel de ta vision. Il va falloir que tu aies des personnes très différentes. C'est par exemple, dans un groupe de louanges, vous n'avez pas besoin seulement de certains chanteurs qui vont... Si tout le monde chante soprano et que vous n'avez pas d'alto, bah vous allez louper de quelque chose, d'une voix harmonisée dans un groupe de louanges. Si vous avez un très bon pianiste mais que vous avez un batteur lamentable, votre groupe de louanges n'ira pas très loin, vous voyez. Si vous avez des gens qui ne sont pas extrêmement trempés dans la présence de Dieu, vous n'irez pas loin non plus. Maintenant, si vous avez des gens super spirituels qui chantent comme des casseroles, vous n'irez pas loin non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils nous font des gens de dons différents qui apprennent à être ensemble et à créer cette dynamique de groupe. Et Dieu nous donne des rendez-vous divins. Dieu met des gens sur notre chemin. Mais il faut savoir aussi les attirer. Troisième chose, David a créé une loyauté sans égale de la part de ses proches. David a créé une loyauté sans égale de la part de ses proches. Ils étaient prêts à tout, ces gens-là. Et ça, c'est difficile à créer. Des gens qui sont prêts à tout, qui sont prêts à se sacrifier pour la vision. Non, les gens viennent voir un leader et disent « Bon, ok, moi je peux faire ça, ça et ça, mais qu'est-ce que tu me donnes ?» Ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour une vision. Et il y a vraiment un temps de sacrifice pour la vision. Et il faut savoir des gens qui te diront « Pasteur, s'il y a besoin d'argent, on en amènera, on en trouvera. S'il y a besoin de ça, on va trouver ça. Si vous avez besoin de telle ou telle chose, n'hésitez pas à m'appeler. » Ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à passer du temps, à sacrifier du temps même sur leur business, sur toutes sortes de choses qu'ils pourraient faire à côté en disant « Non, je serai là ». Moi, j'ai quelqu'un qui est comme ça dans mon église. C'est une dame, une jeune dame qu'on a mariée récemment, mais elle est incroyable. Il suffit que je l'appelle, elle me dit « Oui, pasteur, c'est une businessman, c'est une dame qui est très brillante, qui a fait de belles études, qui réussit très bien dans la vie, mais il suffit que je l'appelle. » Elle me dit « Quand est-ce que tu veux que je vienne ?» Moi, je trouve ça super. Elle est prête à tout laisser. Elle peut être même à la douane, elle est prête à tout laisser. Elle viendrait directement. Je dis, attends, doucement. Viens, mais termine d'abord ce que tu as à faire. Vous voyez, des gens qui sont prêts comme ça. Des gens qui sont prêts à tout. Mais pas une fois pour vous faire, entre guillemets, plaisir, pour dire, j'ai aidé le pasteur. Mais à n'importe quel moment. Il suffit qu'on organise un cocktail business ou un petit déjeuner business. Directement, elle vient, elle me dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Etc. Elle organise tout, j'ai rien à faire. Elle fait tout. Tout de A jusqu'à Z. Et elle est volontaire, pour vous dire. Volontaire. Des fois, je lui dis, mais attends, il faut qu'on paye de l'essence, des cartes téléphoniques. Elle me dit, c'est pas grave, tout ça, moi, je le donne pour le Seigneur, etc. Et le Seigneur l'a béni largement. Mais c'est des gens qui sont loyaux. Une fois, je vais vous raconter une anecdote simple, toute simple, mais c'est trop marrant. Il y a des choses comme ça que vous repérez chez les gens, c'est vraiment marrant. J'étais justement dans sa dot. Ah, je vais vous raconter quelque chose, parce qu'il faut que vous compreniez certaines choses sur les serviteurs de Dieu. J'étais dans sa dot. Et il y avait donc son père n'est pas sauvé, etc. Il avait amené ses amis, etc., etc. Et puis à la fin, ils nous ont servi, vous savez, ce qu'on appelle un champagne sans alcool. Champagne sans alcool. Alors au Burundi, ils sont très stricts là-dessus. Pas d'alcool, chrétien, pas d'alcool. Ok, je respecte 100%. Et puis on a bu ça. Et il y a quelqu'un qui a vu ça. Et il y a la mère de la fiancée de mon interprète qui a fait des histoires parce que son mari était dans la dot. Et elle a dit, le pasteur a bu de l'alcool, c'est un soulard. Et alors, l'interprète, il vient et il voit cette fille qui était dotée. Et il dit, c'est vrai que le pasteur a bu de l'alcool pendant ta dot. Et elle lui a dit, comment est-ce que tu peux croire ça? Vous voyez, directement, parce que c'est quelqu'un qui est loyal, va dire, comment est-ce que tu peux croire ça? Comment est-ce que tu viens me voir? Parle au pasteur directement. Vous voyez, quelqu'un qui est loyal, il va prendre votre défense en tant que leader. Même si vous avez fait une erreur, il prendra votre défense. Et elle a engueulé le gars. Elle a engueulé le gars. Elle lui a dit, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi est-ce que tu viens me voir moi et que tu as soupçonné ces choses-là plutôt que de chercher d'abord à savoir qu'est-ce qu'il en était exactement auprès du pasteur ? Vous voyez, les gens loyaux vont venir et directement, ils vont prendre la défense du leader. Et même des fois, ils vont couvrir le leader quand le leader aura fait des erreurs. Les gens loyaux couvrent les leaders, même quand ils font des erreurs. Les gens loyaux n'exposent pas ceux qu'ils servent. Ah là 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 là. Eh oui, frères et sœurs. Quand vous avez un entourage proche qui ne fait que de vous regarder, qu'à la moindre erreur que vous faites, ils en profitent, ce ne sont pas des gens loyaux. Vous avez un mauvais entourage proche. Vous avez un mauvais entourage proche. Les gens loyaux, d'abord, vous défendront directement contre tout ce qui peut venir contre votre personne en tant que leader. Maintenant, si vous faites des gaffes, vous paierez les gaffes. Qu'on soit bien d'accord. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le leader qui fait les gaffes, on l'a vu dans la loi de la solide fondation, va payer ses gaffes. Mais les gens qui vous entourent, si ce sont des gens qui sont tout le temps en train de voir qu'à la moindre erreur, ils peuvent vous faire un croche-pied parce que leur seule idée, c'est de prendre votre place, ça veut dire que ce sont vraiment des gens déloyaux. Il ne faut pas que vous les ayez dans votre entourage. Ce sont des gens qui peuvent être dangereux pour vous d'ailleurs. Et parfois, il faut tester les gens. C'est triste à dire. Je dois le dire avec tristesse que quelqu'un dise « Amen ». Ça n'a pas l'air de vous parler. Numéro 4, David délégua des responsabilités selon l'habilité de chacun. David a délégué des responsabilités selon l'habilité de chacun. Et là aussi, il y a des risques. Quand nous déléguons, il y a des risques. Mais il faut savoir déléguer. Si tu ne sais pas déléguer, tu vas limiter ton potentiel en tant que leader. La délégation est indispensable. La délégation, c'est quelque chose d'indispensable. Mais ce sont des risques pour un leader. Il y a parfois des gens à qui on a délégué des départements entiers. J'ai vu une fois une église comme ça, où il y avait les jeunes, où il y avait un responsable de jeunes qu'on avait mis. Et ce responsable de jeunes, il faisait des réunions, il était très très doué. Il était tellement doué que la foule grandissait très sérieusement tous les samedis après-midi. Et un jour, avec le responsable de la louange, ils se sont rebellés contre le pasteur. Et ils sont partis avec une partie de l'église. La délégation parfois nous coûte cher quand les gens ne sont pas loyaux à notre personne. Je vous rappelle une chose, si vous avez un leader et que vous n'êtes pas satisfait, que vous estimez qu'il ne correspond pas aux valeurs divines dans lesquelles vous croyez, faites une chose, partez en lui disant merci pour ce que tu as fait et partez par la petite porte. Ça, c'est biblique. Maintenant, aller ouvertement diviser une église, ce n'est pas biblique et ça vous coûtera très cher. Il y a des gens qui font ce genre de choses, ça leur coûte cher. Croyez-moi, au début, les gens vont dire « Ah, c'est bien, on est ensemble, etc. etc. » Le problème, c'est que vous embarquez une partie de rebelles. Et ces gens-là, quelques années après, ont fait le même problème dans une autre église. Maintenant, ils sont corrigés, parce que ça leur a pété deux fois dans la figure. Et j'ai dit à Alain, tu vois, ça t'a pété deux fois dans la figure, parce que tu as fait n'importe quoi. Maintenant, il serait peut-être temps que tu te corriges très sérieusement. Depuis, il s'est corrigé. Ils ont fait une église, ça commence à pas mal marcher, etc., etc., etc. Mais ça, ça coûte cher. Avoir une telle mentalité coûte extrêmement cher. Et les gens, beaucoup de gens en ont parlé dans toute la ville de ces histoires-là. Et pendant des années. Non, la Bible est claire. Si tu n'es pas d'accord, tu dis merci parce que ton leader a fait des choses pour toi. Et à ce moment-là, tu pars par la petite porte gentiment. Tu te tais, tu n'as pas besoin d'aller raconter toutes les histoires de droite et de gauche, et le Seigneur t'amènera dans autre chose, tout simplement, que quelqu'un dise Amen. Parce qu'il faut faire très attention, frères et sœurs. Souvent, nous faisons des erreurs graves, parce que nous ne sommes pas contents. Et je suis désolé, si tu es sous le leadership de quelqu'un, je dis bien sous le leadership, il y a beaucoup de gens qui confondent travailler avec. Tu ne travailles pas avec ton pasteur, tu travailles sous le leadership de ton pasteur. Soyons bien clairs. Il y a beaucoup d'histoires, surtout dans les églises indépendantes, où les gens se bagarrent après parce qu'ils disent « on a commencé ensemble ». Oui, mais tu as commencé parce qu'il y a quelqu'un qui a été loin au départ et qui t'a appelé. Tu n'as pas commencé avec lui. Malheureusement, il a fait l'erreur, ce qui est très classique dans nos églises indépendantes, où nous avons nos associations. Nous disons finalement que nous avons commencé ensemble. Et non, l'association n'est pas le ministère. L'association, c'est juste une vitrine obligatoire. Jésus n'avait pas d'association sans but lucratif qui s'appelait Jesus Ministries. Il n'y avait pas non plus Paul Ministries. D'accord ? Nous avons un mal que nous devons subir, c'est la personnalité juridique, en tout cas pour les églises indépendantes. J'ai vu qu'ici au Congo, vous avez une très 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 bonne structure, hein, la structure des assemblées de Dieu. J'ai posé quelques questions, je trouve ça extraordinaire. Franchement, c'est super. Honnêtement, je vois qu'il y a une couverture et les églises ont une certaine autonomie, etc. Je trouve ça extrêmement bien. D'ailleurs, je vais en prendre un bon modèle. Je vais en prendre une grande tranche avant de partir pour savoir comment ça se passe. Parce que honnêtement, vous avez résolu un problème qu'il y a dans beaucoup de pays du monde, c'est-à-dire que les gens ont leurs associations, leurs machins. Alors on commence ensemble et 3-4 ans plus tard, ça pète entre les leaders potentiels parce que chacun veut une part du gâteau. Et on ne travaille pas avec le pasteur. On travaille sous le leadership du pasteur. Sous le leadership du pasteur. Et ça, il faut que les gens soient au clair très rapidement. Le pasteur est un gouverneur. Oui, oui, pas de province. C'est un gouverneur, je pourrais vous le montrer dans 1 Corinthiens 12. C'est lui qui gouverne l'église locale. Dieu lui a donné une délégation, lui a donné une autorité spirituelle sur son peuple. Il faut être très clair là-dessus, très clair là-dessus. Moi, au niveau du leadership de l'église, je suis très clair. Parce que le pasteur, c'est lui qui gouverne. Et le gouverneur prend les décisions. Maintenant, il doit s'entourer de très bons conseillers. Avoir un entourage proche. Mais il y a beaucoup de confusion dans les églises et il y a beaucoup de gens, surtout dans les églises indépendantes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bagarres, qui chacun veut décider. On va voter pour la couleur de la moquette, on va voter parce qu'on doit acheter une baffle, on doit voter pour ceci, on doit voter pour cela, mais on se fait empoisonner la vie avec ces trucs-là. Le pasteur est celui qui est le gouverneur et le gouverneur décide. Maintenant, il s'entoure de bons conseillers s'il comprend cette loi de l'entourage proche. Numéro 4, quatrième grand principe. Grand principe. Faites la différence entre eux. Quand je vous dis les grands principes. Troisième grand principe, une équipe, c'est bien plus qu'un groupe de gens. Et on a fait petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Maintenant, on fait grand 4. La qualité du cœur du leader détermine qui est dans son entourage proche. La qualité du cœur du leader détermine qui est dans son entourage proche. Vous pouvez être quelqu'un de très talentueux. Si vous avez beaucoup de talent, les gens vont être attirés. Ça, c'est la loi du magnétisme. Quand quelqu'un est très brillant, rapidement, il va attirer beaucoup de gens. Mais maintenant, quel est son cœur ? La qualité des gens qui vont être autour de lui vont être déterminée par quoi ? Par son cœur. Par son cœur. Et ça, c'est important. Vous voyez, on revient au principe. Dieu fonctionne avec quoi ? Avec des principes, des lois, mais aussi avec des valeurs. D'accord ? Les principes, tu peux être talentueux, tu peux être un super organisateur, tu peux avoir des dons extrêmes, etc., etc. Tout ça, ce sont des qualités que tu as, c'est très bien. Des talents que tu as, c'est très bien parce qu'il t'en faut. Parce que quand tu es leader, il faut que tu sois quelqu'un qui ait des talents. Ça, c'est très clair. Mais pas seulement, il faut aussi que tu sois quelqu'un qui ait des valeurs. C'est fondamental. Parce que les gens que tu vas attirer autour de toi, ils vont te ressembler. Si tu es un sale hypocrite, tu vas attirer des sales hypocrites. Crois-moi. Crois-moi. Donc les qualités d'un cercle proche. Quelles sont les qualités des personnes que tu dois avoir autour de toi ? Les qualités des personnes. Qualité d'un cercle de proches, des personnes qui sont autour de toi. Donc, si tu veux avoir des personnes de qualité, toi-même, numéro un, il faut que tu sois quelqu'un d'influence. Tu dois être quelqu'un d'influence d'abord. Quand tu es quelqu'un d'influence, tu vas attirer des leaders potentiels qui vont être autour de toi, qui vont aussi avoir de l'influence. Ça, c'est obligatoire. Numéro deux, tu dois créer des réseaux de personnes. Et ces gens-là qui sont autour de toi, il faut savoir qui ils connaissent. Si tu as des gens autour de toi, il va falloir que ces gens-là aient des relations avec d'autres et du networking, ce qu'on appelle, avec d'autres. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de toi, si ce sont des gens qui n'ont aucune influence, qui créent aucun réseau, c'est-à-dire qui n'ont pas de réseau, ce sont des gens trop solitaires. Si tu as autour de toi un cercle de 10 personnes qui ne connaissent qu'une personne, bah, tu n'auras pas beaucoup d'influence. ces gens-là qui sont autour de toi doivent aussi créer du networking. C'est-à-dire, toi, tu crées un networking, c'est-à-dire des réseaux relationnels, mais eux-mêmes, les gens qui sont autour de toi, doivent être des gens relationnels. Ça ne doit pas être des solitaires. Les gens qui sont trop solitaires, qui sont autour de nous, ben, en fait, ils ne nous aident pas beaucoup en général. Ensuite, on doit être quelqu'un qui prend soin des autres. Tu dois faire attention de prendre soin des autres. Ensuite, tu dois apprendre, numéro 4, à rendre fort ces personnes qui sont autour de toi. Quand ça tremble, quand il y a la tempête, il te faut des gens forts autour de toi et tu dois les rendre forts. Si tu as des gens faibles qui n'arrêtent pas de te dire « Pasteur, on ne va jamais y arriver. Pasteur, tu sais, c'est un défi, je ne sais pas comment on va relever ça. » Qui n'arrêtent pas de lancer des paroles et mettre une atmosphère d'incrédulité et qui ne sont pas capables d'aller au front et de relever les défis alors que tu es à leur tête, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas su créer des gens forts autour de toi. Quand ça chauffe, ces gens-là doivent être à côté de toi en disant « Pasteur, tu m'as appris comment il fallait faire, il n'y a pas de problème, on domine la situation. » Si tu as constamment des gens qui reculent parce qu'ils sont trop faibles, parce que tu n'as pas su les rendre forts, là tu as un problème. Numéro 5, il faut être plein de ressources. Plein de ressources. Toi-même, tu dois être plein de ressources et tu dois chercher des gens qui ont des ressources différentes. Parce qu'il y a des moments où tu as besoin d'un bon organisateur. Il y a des moments où tu as besoin d'un bon financier. Il y a des moments où tu as besoin de quelqu'un qui sait toucher le cœur de Dieu et qui sait vraiment être un réel combattant dans la prière. Il y a des moments où tu as besoin de faire des actions d'évangélisation et avoir des gens qui sont hardis et qui vont diriger des groupes qui vont aller chercher les âmes perdues. Il y a différents moments, partout. Tu as des moments où tu as besoin d'améliorer ta qualité technique, ton excellence. Donc il te faut des gens. Et ces gens-là, il faut que tu les attires. Mais toi-même, tu dois avoir beaucoup de ressources et de compétences dans tes ressources. Et à ce moment-là, tu attires ces gens-là et tu les disposes comme il le faut. Et c'est là où tu peux faire énormément de travail. Être d'un caractère qui pousse les autres aussi. Être d'un caractère qui pousse les autres. Si toi, tu pousses les autres, tu auras des gens comme ça. Tu auras des gens comme ça qui vont pousser les autres. Parce que tu montres l'exemple. Tu pousses les autres constamment. Nathan a su pousser David à la repentance. Absalom avait un caractère qui ne poussait pas les autres, au contraire, qui créait des divisions, qui était déloyal. Numéro 7, être intuitif. Être intuitif. Toi, tu dois être intuitif, mais ton entourage proche doit être aussi intuitif. Et je vous rappelle que l'intuition, c'est lire dans les situations. Ce n'est pas parler ou voir le problème, c'est voir la solution même avant que le problème arrive. Nous l'avons vu, la loi de l'intuition. Ensuite, des gens responsables. Toi, tu es responsable et tu dois avoir des gens autour de toi qui doivent être responsables. Les gens sur qui tu dois toujours mettre un policier, le KGB et la CIA pour savoir s'ils travaillent et s'ils fonctionnent dans la vision, ça c'est mauvais. Ces gens-là, il ne faut pas que tu en aies autour de toi. Tu pars, une semaine, deux semaines, tu reviens, il n'y a rien qui a été fait. Tu avais demandé ça, ça et ça et ça, il n'y a rien qui a été fait. Ça ne va pas. Ce ne sont pas des gens responsables. Tu as besoin de montrer un exemple toi-même de responsabilité. Parce que le problème, c'est que les gens vont s'identifier à toi. Si tu n'as pas la qualité d'un être responsable qui prend tes responsabilités, quand ça chauffe, quand tu pars, quand tu es un peu loin de ton entourage proche, les gens ne font rien. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités, ne continuent pas de faire avancer la vision. La compétence. Compétence. Ça, c'est important aussi. Nous, nous devons être des gens compétents, mais on doit être entouré aussi de gens compétents, pas les médiocres. Parfois, tu vas prendre quelqu'un qui est médiocre et tu vas en faire quelqu'un d'excellent. Mais ça, c'est toi. D'abord, tu dois avoir ce genre de valeur en toi. L'excellence, ça commence par toi en tant que leader. Et après, les gens qui sont dans ton entourage proche, il va falloir que tu déniches certaines personnes qui ont déjà cette mentalité d'excellence et d'autres qui n'ont pas été éduquées dans la mentalité d'excellence pour les amener dans l'excellence. Ça demande du temps aussi. Mais c'est très important. Les gens négligents qui sont autour de nous, c'est une catastrophe. Et soit ils changent, soit ils ne peuvent pas rester autour de nous. Parce que la négligence pose beaucoup de problèmes. La loyauté, bien sûr. La loyauté, on en a déjà parlé. Si tu es quelqu'un de loyal, tu vas former des gens loyaux et tu vas dénicher les gens loyaux. C'est très important. Ça, je vous dis, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est envers votre personne. Les gens vous acceptent et vous respectent avec vos qualités et vos défauts. Et même si vous passez par des problèmes difficiles, ils seront toujours à vos côtés pour vous soutenir, en attendant que la mauvaise passe se termine et que vous puissiez peut-être être sur les rails alors que vous avez commencé à dérailler un peu. Et ils vous aideront, ces gens-là. Ensuite, dernière qualité qu'il faut avoir et que les gens de votre entourage doivent avoir, c'est être rempli d'énergie. Être rempli d'énergie. Et ça, c'est important. Les gens fainéants, les gens qui ne veulent pas bosser, s'ils sont autour de vous, ce n'est pas la peine. Moi, par exemple, dans mon staff, je ne veux pas de gens qui ont la mentalité des fonctionnaires. Je les traque. On les paye bien, ils sont bien payés, et je veux les payer encore beaucoup plus. Plus l'œuvre grandira, mieux ils seront payés. Mais les gens qui ont une mentalité de fonctionnaire, ça ne m'intéresse pas. Je veux des gens dans la vision. S'ils doivent revenir, par exemple, j'ai ma secrétaire d'institut biblique, des fois je la vois d'elle-même, elle revient pendant son jour de congé bosser. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, oui, pasteur, parce qu'on allait avoir les examens, etc., etc., et comme mon jour de congé tombait, tatata, etc. Je dis, ok, mais prends au moins une après-midi. C'est moi, des fois, qui leur dis, prenez des après-midi, là, reposez-vous un peu. Parce que c'est des gens qui savent que complètement, ils doivent être impliqués dans la vision. Bien sûr, ils ont un salaire, mais ils ne travaillent pas pour un salaire. Celui qui travaille pour un salaire, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Et le patron qui fait travailler les gens pour un salaire, c'est un leader qui n'a rien compris. Travaille pas pour un salaire, et encore moins quand tu es dans une œuvre de Dieu. Tu sers le Seigneur, mais comme tu as besoin de vivre, tu es salarié. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais d'abord, c'est la vision. C'est pas ce que tu vas toucher à la fin du mois. C'est la vision. Quand tu veux faire de 8h à 12h, et à 12h, top, sur ta montre, paf, cloc, tu fermes ton bureau, pour moi, tu as un problème. Ah, sérieusement, pour moi, tu as un problème. Et ces gens-là, en général, ils restent pas longtemps autour de moi, en tout cas. Moi, je ne veux pas des gens comme ça. Je veux des gens qui sont dans la vision. S'il faut revenir le dimanche après-midi, qu'ils reviennent et que je ne les entende pas pleurer, pleurnicher, faire des histoires. Ça ne m'intéresse pas, ces gens-là. Franchement, ça ne m'intéresse pas. On les paye tout à fait honorablement. On continuera à les payer bien davantage. Ça, ça ne me gêne pas. Mais je veux des gens qui sont là. Quand il y a du boulot, on vient bosser. Quand on peut un peu lever le pied, on lève le pied et on prend quelques jours, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci, ils ont des congés, tout ça. Mais je ne veux pas de gens autour de moi qui sont fonctionnaires. La mentalité du fonctionnaire, ça tue vraiment. Le gars qui est là, il vous apporte les photocopies. Vous en avez pour un quart d'heure pour chaque service. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Moi, quand vous arrivez dans notre staff, vous voyez, il y a une ambiance de boulot, une ambiance de travail. On bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Parce qu'il faut qu'on produise. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est hors de question d'avoir des gens qui sont là en train de vouloir se reposer toutes les 5 minutes, d'être au téléphone avec leurs amis, blablabla. Bla bla bla. Je ne supporte pas les gens qui lisent leur Bible au boulot. T'es pas payé pour aller lire ta Bible. Moi, mon staff, nous n'avons pas de gens qui lisent leur Bible. Ils n'ont pas intérêt d'ailleurs, ils le savent. S'ils veulent lire la parole de Dieu, ils ont du temps pour le faire. Ils ont le midi, ils ont le soir, ils sont dans les réunions, etc. etc. Mais c'est hors de question d'avoir des gens qui sont là en train de faire des trucs qu'ils ont envie de faire. Par exemple, venir être toujours prêt, venir à l'heure, etc. etc. Ça, c'est des valeurs. Amen. Alors, notez quatrième grand principe maintenant. Cinquième. Les membres d'une équipe se complètent et ils ne sont pas en compétition. Les membres d'une équipe, grand 5, les membres d'une équipe se complètent et ne sont pas en compétition. Compétition les uns avec les autres. Ça aussi, c'est important d'avoir une équipe qui se complète. Vous voyez, David, dans son entourage, il avait des prophètes, il avait des sacrificateurs, il avait des intendants, il avait des scribes, il avait des chefs de l'armée, il avait des ministères en chef, des superviseurs d'impôts, etc., etc. Lui, bien sûr, il a fait un état. Et il avait toutes sortes de personnes qui avaient des qualités différentes qui se complétaient. C'est important. Si dans votre entourage proche, vous avez le même type de personnes, ce n'est pas bon. Il faut des gens qui aient des qualités, des compétences extrêmement différentes. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans votre entourage proche. Alors, malgré cela, il y a des qualités que ces gens-là doivent avoir. Des qualités. Rapidement, on va les noter. D'abord, il faut vraiment des personnes qui savent prier. Pas seulement qui prient, mais qui savent prier efficacement. Ces gens-là autour de vous doivent être des gens spirituels, mais pas faussement spirituels. Il y en a beaucoup de ces gens-là qui soi-disant prient et ne prient pas vraiment. Ils racontent beaucoup de baratins à Dieu, Je parle des gens qui savent vraiment toucher le cœur de Dieu, des gens qui marchent dans la foi. Ensuite, des gens qui savent nous écouter et nous aider dans nos décisions. Des gens qui savent nous écouter et nous aider dans nos décisions. Ça, c'est important. Quand vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de vous contester, vous avez un problème avec cette personne. Vous avez vraiment un problème avec cette personne. Si vous êtes pasteur, vous avez besoin de conseillers. Vous n'avez pas besoin de petits chefs qui veulent imposer par des manipulations leur volonté. Vous devez diriger. Et si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas un caractère qui dirige réellement, vous allez vous retrouver avec des gens qui constamment vous mettent des bâtons dans les roues. Et ça, c'est pénible, très pénible. Dans un entourage proche, c'est extrêmement pénible. Des gens qui constamment font des choses biaisées pour vous empêcher de réaliser certaines choses. Non, ils doivent vous aider dans vos décisions. Troisième chose, c'est des personnes qui nous encouragent en tant que leaders. Vous savez, les leaders ont besoin aussi de temps en temps qu'on leur dise « Pasteur, vraiment, c'était super. Patron, vraiment, cette fois-ci, on a sorti un produit. Waouh, tu as ramené des choses de l'extérieur, tu as importé ça et ça. Franchement, c'est un truc qui marche super. Tu as une excellente idée, vraiment ça. Ah, je suis impressionné. » C'est important. Vous savez, les leaders, souvent, ils se donnent, et puis on leur jette des pierres, des tomates pourries et des œufs pourris. Je vous assure, souvent, c'est ça. Et on, d'ailleurs, en tant que leader, on doit souvent se blinder par rapport à ça. Ah oui. Parce que vous savez, les gens pompent. Ils vous pomperont jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien sur vous. Les gens ne s'imaginent pas, mais vous savez, quand on bosse dur, il y a des gens, vous bossez dur, et ils viennent encore vous pomper tout ce qu'ils peuvent vous pomper. Avec des trucs et des machins et des bidules. Et jamais ils vous diront merci pour ce que vous avez fait, merci pour ceci, merci pour cela. Et votre entourage proche doit savoir vous dire vraiment, c'était une réussite. Tu as organisé ça et vraiment, pasteur, on loue le Seigneur et on te remercie parce que tu as pensé à nous. Et ça c'est bien. C'est aussi le cœur du leader, bien évidemment. Alors, il vous faut aussi des gens qui ont des idées créatives. Des idées créatives. Très important. Tu es là, tu veux préparer quelque chose, et il faut des gens qui disent « Oui, pasteur, j'aurais une proposition à faire. » Et ils vous annoncent tout un tas de trucs, vous dites « Waouh, c'est bien ça, tiens, j'y avais même pas pensé. » Sois capable de dire en tant que leader « J'y avais pas pensé. Merci de me le dire. » Et hop, la personne vous implémente quelque chose, et vous organise tout un truc, et tout devient très simple, idée créative. Des gens aussi qui savent discerner les cœurs, discerner les circonstances. Des gens qui savent discerner. Aussi des gens qui savent donner et se donner eux-mêmes. Les gens qui vous bloquent parce qu'ils n'ont pas un litre d'essence dans la voiture et vous comptiez sur eux et qui absolument il faut leur donner un litre d'essence mais ils ne vous l'ont pas dit au départ. Il leur faut ceci, il leur faut cela. Ça, c'est fatigant. Excusez-moi de le dire, mais c'est fatigant pour un leader. Je sais que des fois, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des finances. Mais quand tu es dans ton entourage proche, les gens doivent savoir se donner, sans aucun problème. S'il faut qu'ils prennent leur bagnole, qu'ils prennent leur bagnole et qu'ils fassent une course, c'est pas un problème. Sinon, ils prennent un taxi, on leur paye le taxi, c'est pas un problème. Mais que les choses se fassent rapidement. On est freiné par tout un tas de gens, des fois, qui sont autour de nous et qui vraiment ne se donnent pas. Mais qui sont tout le temps en train de réclamer à droite, réclamer à gauche, réclamer ceci, réclamer cela. Et ça fatigue les leaders. Il faut pas des gens comme ça. Il faut des gens qui soient prêts à se donner et à donner. Ils seront rémunérés de toute façon, tôt ou tard. Ensuite, ceux qui se tiennent pour la cause de la vision, quelle que soit la tempête. Alors, ceux-là sont rares. Ceux qui se tiennent pour la cause de la vision, quelle que soit la tempête. Quelle que soit la tempête, ils vont se tenir pour la vision. Ça, c'est important. Ça, c'est des gens qui sont précieux. Je vous ai raconté l'histoire qu'il y a eu un jour quand, dans mon assemblée générale d'association, des gens ont essayé de me mettre dehors. J'ai eu deux personnes qui ont adhéré ce même jour à l'association, juste après. En plein milieu de la tempête, alors que le ministère de l'Intérieur commençait à nous faire des trucs les plus impossibles et inimaginables au travers de ces gens qui voulaient foutre en l'air le ministère, ces deux personnes, c'est ma vice-représentante légale et ma trésorière. Ce sont des gens qui ont venu et qui ont dit « Pasteur, on est avec vous. Est-ce que nous pouvons entrer dans l'association ?» Et grâce à ces personnes-là, entre autres, qui se sont tenues au moment de la tempête, parce que c'était des gens qui étaient loyaux, alors qu'il y avait vraiment des grosses difficultés, alors que les gens essayaient de tout faire, enfin, les gens qui étaient contre nous au niveau de l'association essayaient de tout faire pour tout renverser, ces deux personnes-là sont venues. C'est des gens qui sont encore là aujourd'hui et qui sont extrêmement loyaux et fidèles à la vision. Ça, c'est des gens comme ça dont on a besoin. Les gens qui, quand ça chauffe, qui fuient, qui foulent le camp. J'en ai un autre comme ça, le jour où il y a eu la police qui avait fermé l'église avec ces gens-là qui nous cherchaient des histoires, il m'a dit « Ah !» Il y avait une autre personne qui voulait s'ingérer et il a dit à l'autre personne « Mais attention, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça que tu ne connais pas. » Ça, c'est de la déloyauté. C'est triste. Alors, c'était quelqu'un qui était dans l'église depuis le début. Vous voyez ? C'est dommage. Des fois, on rencontre des gens comme ça. Que le Seigneur les bénisse. C'est pas quelqu'un de mauvais qui a dit ça, mais c'est un peu dommage qu'il ait fait cette déclaration. Parce que ça montre qu'il ne sait pas se tenir. S'il y a des moments difficiles, tu dois avoir des gens qui doivent être là. Ensuite, ceux qui savent planter la vision par les décisions, donc au travers des décisions, et qui stabilisent le tout, qui aident à la stabilisation. Ceux qui savent planter la vision des décisions, donc à partir des décisions du leader, bien sûr, et qui stabilisent, qui aident à stabiliser. On a besoin de ces gens-là. Vous savez, des fois, en tant que leader, on est un peu comme quand on monte sur un bateau et que d'un seul coup, le bateau commence à flancher parce qu'on a mis le pied un peu trop au bord du bateau. Vous savez, les petits bateaux, ça fait comme ça et des fois, ouf, on se dit, oh, je vais me casser la figure. Et il y en a d'autres, ouf, qui stabilisent le bateau pour éviter justement que le bateau ne se retourne. Ça, c'est des gens aussi qui sont précieux. Ceux aussi qui savent fêter les victoires. Vous en avez besoin de ces gens-là. Quand vous remportez des victoires, il faut savoir fêter. Et il y a des gens qui doivent être autour de vous qui doivent vraiment savoir fêter ces choses-là. Ensuite, ceux qui peuvent donner, qui peuvent, je dis bien, donner des ressources aux leaders. Pas des gens qui attendent tout le temps, qui sont des pompes vis-à-vis du leader, mais qui sont prêts à apporter une plus-value, quelque chose en plus, d'eux-mêmes. Des sponsors aussi, des gens qui, avec leurs finances, vont dire, s'il y a quelque chose qui manque, on y va. On prend dans notre poche et on donne. Ils n'hésitent pas à donner, ces gens-là. Ils n'hésitent pas à donner. Moi, des fois, j'ai des gens qui sont assez proches de moi qui disent, mais pasteur, par exemple, on veut acheter une grosse sonorisation, on va avoir un budget d'au moins 60 000 dollars pour ça qu'il faut qu'on lève. Et il y a une sœur qui m'a dit, mais il faut nous dire de faire des offrandes. Et on va donner, nous, on va contribuer. Vous voyez, des gens qui sont prêts. Des gens qui sont là, qui vous disent eux-mêmes, on va donner. Mais simplement, il faut nous le dire, quoi. Ça, c'est important. Et quand c'est des gens qui sont autour de vous, c'est particulièrement précieux d'avoir ces gens-là qui sont de bonne volonté, qui ont quelque chose à disposition. Parce que là aussi, des gens qui parlent, « Ah, si j'avais 1 million de dollars, pasteur, je les donnerais pour l'église. » Oui, le problème, c'est que tu n'as même pas 10 dollars dans la poche. Alors tais-toi. Il faut être clair. Donc, il faut savoir générer des finances et il faut se taire sinon. Ça ne sert à rien de dire « si j'avais, si j'avais, si j'avais ». Ça, c'est des trucs qu'on entend souvent malheureusement. Ça n'aidera pas un leader que tu lui dises ça. Ah, pasteur, je suis vraiment désolé, mais si j'avais tout cet argent, je te le donnerais directement, moi. Tu parles que tu le donnerais, oui. Et si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a peut-être des raisons aussi. Alors, des personnes aussi qui savent résoudre des problèmes sans que le leader ait à tout traiter. Des personnes qui savent résoudre des problèmes sans que le leader doive tout traiter. Ça, c'est important. Dans votre entourage proche, vous devez avoir des gens qui savent régler des problèmes à bas niveau et à moyen niveau. Sans être toujours obligé de vous dire « Ah, pasteur, il manque une pile pour le micro sans fil. » Ça, c'est pas du ressort du pasteur d'être dérangé en plein culte parce qu'on a oublié d'acheter une pile pour le micro sans fil. Il y a des gens parfois qui sont comme ça, qui viennent vous déranger pour des trucs mais bêtes, stupides. Moi, je vous dis, quand je suis dans la louange et l'adoration, je veux qu'on me foute la paix. Si le protocoleur vient me déranger, je lui dis quelque chose. Moi, quand je suis dans la présence de Dieu, personne ne vient me déranger. Je ne veux pas. Moi, quand je vais au culte, je viens pour louer et adorer Dieu. Même si je prêche, numéro un, je viens pour louer et adorer Dieu. Mais il y a des gens, ils vous dérangent pour des trucs bêtes. Ils sont incapables, alors qu'ils sont là. Tu leur dis, mais écoute, franchement, tu ne pouvais pas prévoir ça à l'avance, tu ne pouvais pas, je ne sais pas, tu sais que tu dois aller vers telle ou telle personne, et ils sont là tout le temps. Et vous savez, pour nous les pasteurs, c'est fatigant. Plus l'église est grosse, plus c'est fatigant d'avoir des gens qui sont comme des sangsues. Vous arrivez et vous êtes épuisé à cause de ça. Alors qu'il y a plein de choses que ces gens-là devraient faire par eux-mêmes. Vous voyez ? Donc quand vous avez un entourage proche, il ne faut pas des gens qui vous posent tout le temps des questions, qui vous téléphonent 50 fois dans la journée. Mais je vous assure, des fois, il y a des gens comme ça. Ils vous téléphonent 50 fois dans la journée. Et ça, c'est pas bon. Vous savez, le téléphone portable est une bénédiction, entre guillemets. Je dis mets entre guillemets, mais parfois, c'est une malédiction. Hein. Surtout quand on donne la parole de Dieu. Alors, des personnes aussi qui créent des réseaux pour l'organisation. Ça, c'est important. Ces personnes qui vont créer des réseaux et qui vont amener leurs relations. Ça, c'est précieux aussi, très précieux. Qui connaissent de bonnes personnes et qui vont vous les amener. Qui ne vont pas tout cacher. Ou essayer de faire des commissions. J'arrive pas à comprendre des gens qui essayent de faire des commissions sur le dos du pasteur. C'est épouvantable d'avoir ces gens-là. Ils sont là, ils cherchent qu'une chose, c'est à retirer de l'argent. Ah oui, tu as un problème avec ta voiture, pasteur. Ne t'en fais pas, je vais t'amener la pièce. Et le mec, il se fait une grosse commission sur ça. Quel minable. Franchement, je trouve vraiment ça, c'est des mentalités de petits. Ils essayent de vous rouler. Va rouler, un serviteur de Dieu. Bon courage. Et après, tu seras là. Seigneur, je t'aime. Et tu es là et tu roules le serviteur de Dieu. Tu es vraiment petit. Change ta mentalité. Quelqu'un aussi qui peut mentorer des leaders, des futurs leaders. Quelqu'un qui peut mentorer, c'est-à-dire qui va aussi prendre des futurs leaders sous sa coupe. Bien sûr, vous êtes le leader, vous formez des leaders qui vont former des leaders. On verra que ça, c'est un potentiel dans le leadership qui est extraordinaire. Donc, il va former des leaders, il va mentorer des leaders. Et puis, dernière chose aussi, votre entourage proche, ça doit être aussi des petits protégés, ce qu'on appelle les protégés, c'est-à-dire des gens qui sont sous votre aile, que vous allez former et qui deviendront des grands leaders plus tard. Dans votre entourage proche, il doit y avoir la génération qui va suivre après vous, qui va prendre la succession. On verra qu'il y a la différence entre un héritage et une succession. Un héritage, ce sont des choses, une succession, ce sont des personnes. C'est la différence entre les deux. Donc, votre entourage proche, ça doit être une pépinière où il y a un certain nombre de gens que vous repérez, que vous allez former. C'est des petits protégés, ce qu'on appelle. Des gens que vous allez préparer, que vous prenez sous vos ailes et qui vont apprendre petit à petit à voler de leurs propres ailes. Alors, on va voir la 12e loi maintenant et on va la commencer puis après on fera une pause. On va voir la loi de la montée en puissance. 12e loi, la loi de la montée en puissance. En fait, l'idée de cette loi, c'est d'arriver à dénicher les leaders potentiels dans lesquels personne ne croit. Mais toi, tu as vu un futur leader. Mais personne ne croit en lui au début. Et tu vas faire de lui un leader. Tu vas l'aider, en quelque sorte, à prendre son envol. Ça, c'est quelque chose qui est précieux aussi. Pour l'instant, c'est un petit poussin qui va devenir un petit coq. Et après, ça va devenir un aigle. Mais pour cela, il va falloir quelqu'un qui fasse un levier. Souvent, les leaders qui remercient d'autres leaders, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a exercé un levier sur eux. Et ça, c'est précieux. Et c'est rare en leadership. C'est rare en leadership. Il y a des leaders qui grandissent de par eux-mêmes. Personnellement, moi, je n'ai jamais eu de mentor. Des gens qui m'ont pris sous leur aile. Je n'ai jamais eu un pasteur, je n'ai jamais été formé par un pasteur. C'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs dans le leadership. J'essaie d'en faire de moins en moins. J'essaie de grandir. Mais j'ai eu la vie beaucoup plus dure que des leaders qui ont été formés et qui ont été dans lesquels on a exercé l'aspect du levier pour les aider à aller beaucoup plus haut. Moi, j'ai dû me débrouiller tout seul. J'ai été formé académiquement, entre guillemets, dans une école biblique, mais j'ai jamais eu un leader mature. Je ne peux pas dire, malheureusement, que j'ai eu un père dans le ministère qui m'a formé. Et je vous assure, j'ai eu la vie dure avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, que personne ne nous a appris. Et tu es obligé d'aller les pêcher à droite, à gauche, et tu perds des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc., etc., etc. Puis au bout d'un moment, tu commences à maturer. Par contre, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir commencer à mentorer des gens, à préparer des gens. Des gens qui sont proches de moi, mais aussi des gens qui sont très loin. Et ça me permet aussi d'utiliser des choses dont je n'ai pas pu bénéficier en tant que leader. Et parfois, c'est difficile, mais c'est comme ça. Alors, notez que, premier principe, seuls les leaders qui se sentent en sécurité dans leur leadership, seuls les leaders qui se sentent en sécurité dans leur leadership, aident les autres à monter. Seuls les leaders qui se sentent en sécurité dans leur leadership aident les autres à monter et les rendent puissants. Vous savez, des fois, il y a des leaders qui n'arrivent pas à transmettre leur capacité ou qui ne veut pas les transmettre. Il y a des leaders comme ça. Il y a des leaders qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas y arriver, ils ne savent pas quoi faire, ils ne comprennent pas cet aspect de leadership, ou parfois, ils ne veulent pas les transmettre. Vous savez, il y a des leaders qui veulent tout pour eux. Ils veulent être le one-man show et ils veulent surtout pas que quelqu'un puisse devenir plus grand qu'eux. Et ça, ce sont les leaders insécures. Ce sont des gens qui sont là et qui ne veulent pas investir chez les autres ou leur donner les secrets de leur leadership parce qu'ils ont peur que ces autres personnes grandissent plus parce qu'eux-mêmes se sentent dans une certaine insécurité. J'appelle ça un peu le genre de leader dictateur, quelque part. Et parfois, dans le ministère, nous rencontrons ces gens-là ou des gens qui veulent bien vous former jusqu'à une certaine mesure dans la mesure où c'est eux qui vous dominent. Il y en a des gens comme ça, qui créent leurs empires, surtout ceux qui créent des empires. Vous savez, il y a des gens qui créent des organisations où on sent qu'il y a le grand boss là-haut et ils cherchent d'autres personnes dans la mesure où ces personnes ne monteront pas trop haut. Et ils s'arrangent pour les laisser à un certain niveau, pas trop haut, pour pas qu'ils montent trop haut, parce qu'ils veulent rester le grand roi sur leur empire. Et dans le ministère, on voit ce genre de personnes parfois. C'est triste, c'est vraiment dommage. Parce que ça limite complètement le leadership. Ça marchera à un moment, les gens verront si vous avez de grandes capacités, de grandes qualités, de grandes compétences, ils courront vers votre leadership, mais au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir d'une chose, c'est que quand vous voulez monter un peu trop haut, vous mettez le pied sur leur tête. Et ça, c'est vraiment pas le caractère de Dieu, c'est vraiment pas la mentalité de Dieu. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'un leader va devoir faire. Il va devoir découvrir le futur leader, le leader potentiel, et investir en lui, l'amener plus haut. Donc il faut qu'il découvre le leader potentiel. Ça, c'est l'art du leadership. Il va falloir investir dans ce leader et l'amener plus haut. Et sachez une chose, si vous mettez des barrières, si vous êtes leader et que vous mettez des barrières aux autres pour les empêcher d'aller plus haut, les leaders potentiels qui veulent être vraiment formés, qui ont un bon cœur, iront chercher un autre leader. Ils chercheront un autre leader. Si vous mettez des barrières à un leader qui a un bon cœur, qui a une destinée divine, au bout d'un moment, il quittera votre leadership. Et il ira chercher un autre leader qui sera capable d'investir en lui. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il va chercher un leader qui va être capable d'investir en lui. Si toi tu le limites, si toi tu joues le dictateur, si toi tu joues le grand boss, le grand roi, celui qui veut régner, qui l'empêche d'avancer au bout d'un moment, ou qui l'a trompé, qui lui fait croire que tu veux le faire avancer, mais finalement tu veux dominer sur lui. Au bout d'un moment, cette personne va dire il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et elle va réaliser que tu l'as roulé, entre guillemets. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ira chercher un autre leader qui voudra vraiment investir dans son cœur, dans sa personne, pour aller beaucoup plus haut. En fait, quand vous aidez vraiment les autres comme ça, les gens vous respectent d'une façon incroyable. Quand tu as investi chez quelqu'un et que la personne va dire « En fait, je suis ce que je suis grâce à telle personne qui m'a aidé, qui a investi en moi, qui a cru en moi, alors que personne ne voulait croire en moi. » C'est une immense récompense pour le leader qui a formé le leader potentiel. Mais ça demande du temps. Ça va demander aussi de l'investissement. Ça va aussi demander d'aider l'autre, alors que l'autre, parfois, ne donne pas, entre guillemets, les résultats que tu aimerais qu'il donne pour lui-même, pour sa propre vie. Et cela demande du temps. Deuxième grand principe, notez qu'il n'y a pas de limite au succès quand nous ne limitons pas les autres. Il n'y a pas de limite au succès quand nous ne limitons pas les autres. Si tu es leader, ton vrai bonheur doit être de voir les autres réussir, ceux que tu as formés réussir, et réussir mieux que toi. Participer au succès des autres, ça doit être ton bonheur. Voir les autres être heureux et épanouis, ça doit être ton bonheur. Tu dois participer au succès des autres, c'est ça ton bonheur. Si tu es leader, tu dois comprendre que tu dois aider les autres à réussir. Tu n'es pas là pour construire ton empire. Tu n'es pas là pour faire un one-man show. Tu es là pour diriger des gens qui doivent réussir et de former des leaders potentiels. Et nous verrons que l'autre mesure du leadership, c'est de former des leaders qui eux-mêmes vont former des leaders qui eux-mêmes vont former des leaders. Alors là, tu vas avoir une influence extraordinaire et tu vas aider tellement de gens dans ta vie. Nous sommes là pour aider les gens, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour prendre. Nous sommes là pour donner et pour aider. Quand un leader comprend cela, bien sûr, il sera récompensé. Parce que les gens voient toujours d'abord leurs intérêts. Il y a un homme qui a aidé un autre homme dans la Bible que nous connaissons bien. L'apôtre Paul a été aidé d'une façon incroyable par un homme qui était après beaucoup plus petit que lui dans le ministère, qui s'appelle Barnabas. Paul n'a pas été dans le ministère public du jour au lendemain. Il y a un homme qui s'appelle Barnabas qui l'a aidé, qui l'a fait connaître, qui l'a mentoré et qui a été comme un levier, comme nous allons le voir, pour lui. On va lire quelques passages de l'Écriture parce que c'est souvent quelque chose qui n'est pas du tout vu dans la parole de Dieu. Quand Paul va se convertir dans Acte 9, vous lirez ce passage entier à la maison. Paul va se convertir. Vous vous rappelez les problèmes que Paul avait juste après le début de sa conversion. Quels étaient les problèmes? Les problèmes, c'est qu'il se convertit, mais comme c'était quelqu'un qui persécutait tout le monde, qui persécutait l'Église de Dieu, qui avait mis des chrétiens à mort, qui avait des lettres de la part des principaux sacrificateurs pour faire arrêter des chrétiens et même les mettre à mort. Quand il s'est converti, Paul, personne ne voulait croire dans sa conversion. Vous n'avez pas lu ça dans l'Écriture? Absolument. Personne n'a voulu croire dans sa conversion au début. Regardez, on va lire quelques passages. Donc, Acte 9. Donc, Paul se convertit. Et qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, il est à Damas. Il commence à parler du Seigneur. Bon, et bien sûr, il est rempli du Saint-Esprit. Il est baptisé dans l'eau, etc. Il commence à prêcher Jésus. D'un seul coup. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu, à la fin du verset 20. Le problème, c'est que, verset 23, « Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir, et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et descendirent le long de la muraille dans une corbeille. » Donc, il s'est échappé. Il avait un double problème, Paul. Au départ, il va avoir le problème que les Juifs vont voir que Paul, maintenant, prêche Jésus. Mais le deuxième problème qu'il va avoir, c'est que même les chrétiens et les autorités, les responsables des églises, ne vont pas croire dans sa conversion. Ils ne vont pas croire dans sa conversion. Verset 26. « Arrivé à Jérusalem, donc une fois qu'il a fui Damas, arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient. » Imaginez-vous, vous vous convertissez, vous avez deux types de personnes. Une, ça devient vos ennemis, et les autres ne croient pas en vous. Tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, regardez bien, le prit avec lui. Barnabas, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fils d'encouragement, le fils d'exhortation, c'est ça que ça veut dire. Le fils d'encouragement, le fils d'exhortation. Alors Barnabas le prit avec lui et le conduisit vers les apôtres. Regardez bien, Barnabas ici le repère. Et leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu comment le Seigneur lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem. Donc Barnabas avait pris Paul régulièrement à côté de lui. Il avait repéré chez lui quelque chose. Et il s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les Énélistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse, Saul de Tarse. Il est reparti dans sa ville où il est né et où il avait grandi. Ça, c'est le début. Mais après, dans Acte 11, alors que Paul était un inconnu, il était retourné, il s'était converti, il était retourné dans sa ville à Tarse. Dans Acte 11, Barnabas va encore faire quelque chose. Acte 11, 19 à 30, on va lire, « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution. » Ça, c'est plusieurs années après. « Survenus après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux des hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus d'Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était sur eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Barnabas, on parle de lui. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Regardez bien, Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin de quoi ? Chercher Saul. Et Saul était là depuis plusieurs années, dans l'ombre. Dans l'ombre, Saul, Paul n'avait rien fait pour l'instant. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, il participait aux réunions de l'église et enseignait une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les chrétiens furent appelés des disciples. Les disciples furent appelés chrétiens, excusez-moi, je disais deux choses en même temps. Donc en fait, Paul va faire quoi ? Paul va être pris par Barnabas, sous la coupe de Barnabas. Et plus tard, vous verrez dans Acte 13, c'est là où Paul enseignait dans l'église d'Antioche. Si vous étudiez les Actes des apôtres, vous verrez que l'épicentre du christianisme va se déplacer. Au début, l'épicentre du christianisme se situe à Jérusalem. Ensuite, ça va se déplacer sur l'église d'Antioche. Après, ça va se déplacer vers Éphèse. Quand je dis l'épicentre, c'est là où tout se passait principalement. C'est là où il y a eu les réveils. C'est ça. Quand vous étudiez les actes, c'est très intéressant. J'ai fait une étude très très longue sur les actes il y a un certain nombre d'années et on voit bien. Au départ, on voit que tout se passe à Jérusalem. Mais à partir de actes 11, 12 et 13, on voit que tout se passe à Antioche. C'est de là où les premiers missionnaires vont partir et c'est là où il va y avoir l'implantation de toutes les églises en Europe du Sud. Les voyages missionnaires. Paul va partir plusieurs fois à partir d'Antioche. L'église d'Antioche va soutenir Paul et les autres. Mais c'est là où, à partir d'acte 13, Paul et Barnabas vont recevoir une onction apostolique et ils vont partir. Et au bout d'un moment, si vous continuez à lire là, vous verrez que Barnabas, au début, il est parlé de Barnabas et Saul, et après il est parlé de Saul et Barnabas. C'est pas pour rien, ça. C'est pas pour rien. Au bout d'un moment, vous voyez, Barnabas va être un levier pour Paul. Il va le protéger au départ, personne ne croit en lui, mais il va le prendre sous son aile. Il va le faire grandir, il va lui amener des connaissances, on verra, des relations. Mais là, dans quelques minutes, nous allons faire une pause. Je vais vous expliquer ça après. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le propulser. Il va aller le chercher. D'abord, il va le faire protéger. Ensuite, il va aller le chercher là où il est, à Tarse. Quelques années plus tard, il va l'aider à entrer dans son ministère d'enseignant. Paul va devenir enseignant et prophète. Et après, tous les deux, dans Acte 13... le Saint-Esprit va les mettre à part pour l'œuvre à laquelle il les a appelés et il va les envoyer apostoléo en grec et c'est là où ils vont recevoir leur onction apostolique. Et ils vont être apôtres. Dans Actes 14:14, par le Saint-Esprit, Luc va écrire les apôtres, Barnabas et Saul et Paul. Et à ce moment-là, ils vont exercer leur ministère apostolique et au bout d'un moment... Paul va prendre dessus. C'est lui qui va devenir le ministère le plus important de la chrétienté, de l'Église de Dieu. C'est lui qui aura le rayonnement le plus important. Pourquoi ? Comment ça a commencé ? Par quelqu'un qui s'appelle Barnabas, qui est venu et qui a vu en Paul un leader potentiel et un appel gigantesque sur sa vie. Personne ne voulait croire en lui, mais il l'a fait sortir de l'ombre.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.